الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Je vais essayer de faire une petite révision pour voir parce qu'en fait il est beau quand on fait un livre comme Kitab al-Tawhid qui est à la base un matn que quand on rentre à la maison on lise le matn et si possible on lit même dans un char, etc. Comme ils ont traduit en français l'explication de Cheikh Saleh et les Cheikh, etc. Donc j'espère qu'en fait chacun d'entre vous, à la base je voulais exiger que vous rameniez le livre avec vous. Mais bon, comme il ne faut pas rêver. Voilà. Donc qui peut me citer un dalil qui c'est qui connaît déjà le premier chapitre de Kitab al-Tawhid? C'est quoi le titre du premier chapitre? Allez, il faut répondre là, faut pas avoir honte. Hein? Le? Non, le titre du premier chapitre, c'était quoi? Non, c'est Kitab al-Tawhid. Le premier chapitre, il n'a pas de titre en fait. C'était Kitab al-Tawhid et après il a mis des versets. C'est quoi le premier verset qu'il a mis? Dont on a tiré que, alaykoum salam, que le Tawhid c'était ce qui est le but de la création des djinns et des humains. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc le premier bénéfice dans le premier chapitre c'était ça, que le Tawhid c'est la sagesse qu'il y a dans la création des djinns et des êtres humains. Ensuite, il y avait quoi dans le premier chapitre? Non, là je parle du premier chapitre. Le premier chapitre, il montrait ce que c'est que le Tawhid et en même temps sa place. Donc il montre c'est la sagesse qu'il y a dans la création des djinns et des humains. Et après, il montrait autre chose avec un autre verset. C'est que le Tawhid, c'est la base de la da'wah de tous les envoyés. Et c'était quoi le dalil? Oh là, ça craint là. Alors, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour dire adorez Allah, écartez-vous du tawhid. Donc après, par exemple, comment on définit l'ibada? C'est quoi l'ibada? Qui c'est qui peut m'expliquer ce que c'est l'ibada? Ouais, voilà, c'est les actes ou les paroles, apparent ou caché. Ça peut être apparent ou alors dans le cœur, qu'Allah aime et agrée. Voilà. Ça c'est la définition en fait de ce qui manifeste l'adoration. Donc c'est quoi le principe de l'adoration? Avant que la définition d'Ibn Taymiyyah, elle vient au deuxième plan, qui dit ismun jami'un. L'adoration c'est un nom qui englobe li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu, pour tout ce qu'Allah aime et agrée, min al aqwali wal af'al, comme parole et acte, al-zahira ou al-batina, à parole et cachée. Mais avant ça, on peut dire entre guillemets la définition de l'adoration dans la langue arabe. Qu'est-ce que c'est l'adoration comme principe? Voilà, c'est ça, c'est lui. Ils disent ghayatut tazallul ma'a ghayatil hub. C'est-à-dire c'est le fait de s'humilier devant la chose que tu adores, avec en même temps, donc c'est une humiliation qui cache derrière ça la crainte d'Allah, la crainte et la vénération. Et en même temps, elle est accompagnée de ce qu'on appelle Rayatul Hub, l'amour est le plus grand. Donc on avait dit le principe de l'adoration, c'est ça. Et en fait, l'adoration, le mot adoration, ibada, il s'applique à ça Donc ça c'est le principe. Qu'est-ce que c'est l'adoration? Et il s'applique à des actes qui manifestent en fait l'adoration. Donc le mot ibada, il s'applique sur l'adoration en tant que telle et sur des actes d'adoration qui traduisent en fait l'adoration de la personne. Donc qui sont par exemple la salat, les sacrifices, etc. etc. Je cherche en fait des petites questions à vous poser. Après, on avait vu par exemple la parole d'Abdullah ibn Mas'ud. Qu'est-ce qu'il disait Abdullah ibn Mas'ud dans le premier chapitre? Qu'est-ce qu'il a retenu? La parole d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu dans le premier chapitre. Quand il a dit celui qui veut voir le testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Ou le commandement du prophète, ce qu'il a laissé quoi? Comme commandement? Ah mais il a dit qu'il lise la parole d'Allah, les versets qui sont dans Surat Al-An'am, qui commencent par venez, qul ta'alaw, dit venez, atlu ma harrama rabbukum alaykum. Je vais vous lire ce que votre Seigneur vous a interdit. Et la première chose c'est quoi? Allah tushriku bihi shay'a. Yarhamukallah. Bon, on va rentrer dans l'explication. J'essaierai de faire ça en fait à chaque début de cours pour attirer un peu l'attention. Donc il dit Babul Khawfi min ash-shirk, chapitre la peur vis-à-vis du shirk, du polythéisme. Wa qawli Allah azza wa jal, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sourate An-Nisa. Donc dans le verset, Allah dit, Allah pardonne, ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, et il pardonne en deçà de ça à qui il veut. C'est-à-dire en dessous du shirk, madun adhalik, ça veut dire ce qu'il y a en dessous du shirk, à qui il veut. Donc Sheikh Al-Fawzan, il dit, munasabatul babi li kitab al-tawhid, donc pourquoi il a mis ce chapitre dans le kitab al-tawhid, anna al-musannifa rahimahullah, lamma dhakara al-tawhida wa fadlahu, وتحقيقه نسب أن يذكر الخوف من ضده وهو الشرك ليحذره المؤمن ويخافه على نفسه. Donc comme Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a montré ce que c'est que le tawhid, le mérite du tawhid, la réalisation du tawhid, donc il était adéquat que là il montre l'inverse du tawhid et le fait d'avoir peur de cette chose qui est le shirk, et qui commence à nous expliquer ce que c'est que le shirk, puisque c'est ça qui s'oppose au tawhid. Donc après il dit bon, par rapport au verset la yaghfiru an yushraka bihi ay la ya'fu an 'abdin laqiyahu wa huwa ya'budu ghayrahu. Donc quand Allah il dit Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, ça veut dire il pardonne pas à un être humain qui rencontre Allah en étant quelqu'un qui adore autre qu'Allah. Ça veut dire ça c'est la personne sur quel état elle meurt. C'est-à-dire que si la personne elle se présente au jour du jugement avec du shirk, Allah il le pardonne pas. Ça veut pas, donc il faut comprendre, ça veut pas dire pendant cette vie. Pendant cette vie, une personne qui commet du shirk, elle peut faire le repentir. Et ça c'est connu par la simple vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment Omar ibn al-Khattab, si un mushrik ne pouvait pas se repentir et Allah ne pardonnait pas le shirk pendant que la personne elle était vivante, comment Omar ibn al-Khattab il serait converti à l'islam, radiallahu anhu. Alors que lui-même il disait qu'il façonnait sa statue, il l'adorait et ensuite il l'a mangé. Donc il pratiquait le polythéisme comme beaucoup des sahaba. Donc ce qui est voulu c'est celui qui meurt en étant polythéiste, mushrik, celui-là Allah ne lui pardonne pas. C'est-à-dire Allah il pardonne ce qui est en dessous du shirk parmi les péchés. Donc les péchés qui n'atteignent pas le rang de kufr, Allah les pardonne. Il faut bien faire attention parce qu'il pourrait venir une ambiguïté à certains. Ils disent Allah, il a dit ici, il pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Mais si une personne, elle croit à rien, mais elle associe rien à Allah, est-ce qu'Allah il peut lui pardonner le kufr par exemple, qui ne comporte pas de shirk? Par exemple, une personne, elle dit, elle insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle croit en Allah, elle lui associe rien, mais elle insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'elle a commis du shirk? Elle n'a pas commis de shirk. Mais elle a commis quoi? Du kufr. Est-ce que ce kufr lui a fait sortir de l'islam ou pas? Hein? Le fait d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr. Sans aucune excuse. Ça fait partie des actes de mécréance où la personne, elle est excusée pour rien, ni par ignorance, ni rien du tout. Personne qui insulte le prophète, elle sort de l'islam, si elle est consciente de ce qu'elle vient de dire. Bien sûr, elle peut se repentir. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas du shirk. Et que dans le verset, Allah, il a parlé que du shirk. Mais en fait, il a dit, Allah ne pardonne pas. Donc, il ne pardonne pas le shirk, mais il pardonne ce qui est en dessous du shirk. Or, le kufr, qui ne comporte pas de shirk, est-ce qu'il est en dessous du shirk? Non, il n'est pas en dessous, il est au même niveau. Donc, il rentre dans le verset, de cette façon. Parce qu'une personne, elle peut dire, Allah, il pardonne pas qu'on lui associe. Mais il y a des sortes de kufrs qui ne comportent pas d'associationnisme. Est-ce que ça veut dire qu'Allah les pardonne? Non, parce qu'il a dit, il pardonne ma duna dhalik, ce qui est en dessous du shirk. Et la mécréance, elle n'est pas en dessous du shirk. Elle est égale. Comme une personne qui viendrait à dire, par exemple, que les juifs et les chrétiens sont croyants et que leur religion, elle est acceptée par Allah. Est-ce qu'elle a commis du shirk en disant ça? Elle n'a pas adoré autre qu'Allah. Mais elle a commis du kufr akbar. Parce que celui qui dit ça, c'est un mécréant. Donc est-ce que c'est pardonné?
Mais celui qui dit ça en connaissance de cause,
ça après ça c'est une autre question. Non, ça c'est une autre question. En connaissance de cause, etc. La majorité des ulama ils disent, il y a des questions, on appelle ça al-ma'loum min ad-dini bid-darura. Ça veut dire les choses qui sont connues dans la religion bid-darura. Ça veut dire tu peux pas être musulman et croire qu'un chrétien il est aussi croyant. Ça c'est les choses qui sont évidentes dans la religion. Comme il compte. Attends, je continue. Il y en a, ils disent parmi ces choses, le fait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes, par exemple. Le fait que les juifs et les chrétiens ne sont pas des croyants et leur religion, elle n'est pas valable auprès d'Allah. Le fait que la prière est obligatoire. Celui qui renie ça, il est mécréant. Etc., etc. Quand est-ce que la personne, elle est excusée dans ces choses-là? C'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps que la personne est excusée en disant ça. Donc ils disent en fait la personne elle est excusée, elle n'est pas excusée pour son ignorance dans ces choses-là. Ce qu'on appelle ce qui est connu dans la religion clairement. Sauf dans certains cas. Les ulama ils ont admis certains cas où la personne elle est excusée. C'est quoi ce cas? C'est si par exemple elle est née dans un endroit, ils appellent ça elle fait le badia par exemple, ça veut dire chez les bédouins. Ou dans les montagnes, et il n'y a personne, il n'y a pas d'aim, il n'y a pas de musulmans. Donc la personne à ce moment-là, elle est excusée. Si elle dit ça, elle ne devient pas mécréante tant qu'on ne lui a pas montré la vérité. Ou alors, celui qui vient de se convertir à l'islam. Ça aussi, il rentre dans ceux qui sont excusés. C'est-à-dire, il vient de se convertir, il ne connaît pas l'islam, et il dit par exemple, peut-être qu'il y aura un prophète après Mohammed. C'est-à-dire, même des choses évidentes de la religion, il ne les connaît pas. Bien sûr, à condition que sa shahada, il l'ait dite avec science. Donc ces cas-là, ils sont excusés. Donc après, il y a certains ulama, ils disent par exemple, ceux qui vivent dans des pays aussi, où vraiment il n'y a pas de science du tout. La science, elle s'est perdue. Donc quelqu'un qui dirait ces choses-là, il serait excusé quand même. Par exemple, un pays où il n'y a pas de ulama, où il n'y a pas de musulmans, des trucs comme ça. Mais sinon, elle n'est pas excusée pour sa mécréance dans ce genre de... C'est-à-dire, l'excuse de l'ignorance, c'est pas absolu. C'est dans certains cas. C'est leur faute. C'est leur faute. Après, est-ce que le fait qu'on vive en France, ça les excuse ou pas? Moi, je dis pas. Allah alam. Il faut demander à des ulama. Mais il faut demander à des ulama. Ça veut dire, faut pas appeler un prof ou faut appeler des ulama. Faut appeler Cheikh Saleh Al-Fawzan, Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, Cheikh Rabia, des trucs comme ça. Ou le Mufti d'Arabie Saoudite. C'est des gens comme ça, il faut leur demander. Parce que ça, c'est des questions graves. Il vaut mieux appeler des grands ulama et tu leur poses, parce que ça c'est des questions qui ont comme conséquence que tu vas déclarer ou pas une personne mécréante. Voilà, donc c'est pour ça, moi, hein, c'est pour ça, quand tu sais pas trop, Allah il a dit dans le Coran, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lam, demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Mais dans ces questions aussi, c'est des questions qui entraînent qu'une personne qui s'appelle Mohammed, tu vas peut-être le considérer comme un kafir. C'est quelque chose de grave. Ça veut dire que si demain il a une fille, c'est pas lui le tuteur. Ça veut dire que son fils, il va pas hériter de lui, etc. C'est grave. Mais déclarer quelqu'un mécréant, c'est quelque chose de lourd. Donc c'est des questions qu'il faut pas tirer de sa tête, ou il faut appeler des grands ulama pour leur expliquer le contexte. Est-ce que le contexte dans lequel on vit, il s'applique à ce qu'ils ont dit les ulama dans leur livre, comme quoi une personne qui grandit dans un pays où il n'y a rien, elle est excusée même dans ce qui est évident de la religion. Donc est-ce que moi je suis en France, est-ce que c'est considéré comme un pays où il n'y a rien et la personne elle est excusée ou pas? Comment? Il devait donner l'explication des trois sur la salata. C'est pour ça qu'il faut les jeunes, ils doivent apprendre et enseigner à autrui, pas laisser les gens dans l'ignorance. Parce qu'il faut pas être, faut pas tomber dans deux, il y a deux extrêmes. Ceux qui kafarent tout le monde comme ça, takfirin, t'es pas d'accord avec lui, t'es un kafir. Comme il y a beaucoup dans certains pays musulmans, ils t'attrapent, t'es avec nous, t'es pas avec nous. Donc ça c'est des khawarij. Mais il faut pas tomber dans l'autre extrême. Ça veut dire tant que la personne elle dit la ilaha illallah, c'est un musulman. Ça c'est pas vrai. Une personne elle peut dire la ilaha illallah, mais elle sort de l'islam par des actes ou par des paroles. Comme une personne qui dit la ilaha illallah, elle se prosterne pour le devant la tombe d'un wali. Cette personne elle est pas musulmane. Sur la ilaha illallah, elle l'a dit sans science. Elle vaut rien sur la ilaha illallah. Donc il y a deux extrêmes dans lesquels il faut pas tomber. Il faut être au juste milieu. Pour pas déclarer mécréant quelqu'un qui ne l'est pas, et pas non plus déclarer musulman quelqu'un qui ne l'est pas. Donc il faut apprendre la religion. Mais c'est là l'importance d'enseigner aux gens autour de nous. Parce que peut-être certaines personnes elles vont tomber dans la mécréance sans s'en rendre compte. Parce qu'ils suivent des traditions, ils suivent ses propres passions. Donc après ça, c'est pour les questions qui sont claires dans la religion. Après, il y a les questions qui sont moins claires. Là, la personne, elle ne sort pas de l'islam tant qu'il n'y a pas une personne qui lui a enlevé ses ambiguïtés et les mauvaises idées qu'elle a, etc., etc. Comme tout ce qui se rapporte aux noms et aux attributs d'Allah, par exemple. Certaines questions sur les noms et les attributs d'Allah, c'est-à-dire la personne, elle est excusée à cause des choubouhettes qu'elle pourra avoir. Parce que c'est des questions qui sont moins connues déjà et plus difficiles. Donc Al-Muhim, moi j'expliquais ici, c'est qu'Allah il a dit ce qui est en dessous du shirk. Donc les différentes sortes de mécréances, comme le fait d'insulter le prophète, les différentes nawaqid, c'est-à-dire ce qui annule l'islam, elles ne sont pas en dessous du shirk, elles sont au même niveau, donc elles rentrent dans le verset. Ça ce serait au cas où quelqu'un il se dit, Allah il pardonne pas le shirk, mais il y en a qui font de la mécréance sans faire de shirk. Donc ça c'est le madhab d'Ahl Sunnah, c'est-à-dire que les grands péchés, tant qu'ils n'atteignent pas la mécréance, Allah il peut les pardonner si la personne elle meurt avec ça. Liman yasha, ay liman yasha ul maghfirata lahu min ibadihi hasba fadlihi wa hikmatihi. Quand Allah il dit dans le verset, il pardonne à qui il veut, ça veut dire à qui il veut pardonner selon sa grâce et sa sagesse. Parce que les actes d'Allah ils sont selon sa sagesse. Et les actes d'Allah, ils sont entre deux choses. Soit l'adl, soit l'ihsan. Il y a la troisième chose qui est dhulm, ça n'existe pas dans les actes d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah, il est soit juste, comme quand Allah, il égare une personne ou il la châtie, c'est par sa justice. Et quand il la guide ou il la pardonne, c'est par ça, ce qu'on appelle ça, al-fadl ou l'ihsan. C'est sa miséricorde. Les actes d'Allah, ils sont entre les deux. Il n'y a pas d'injustice dans les actes d'Allah. Jamais Allah il égare quelqu'un ou il punit quelqu'un par injustice, ça n'existe pas. Et il y a beaucoup de versets. Wa ma kana rabbuka bidhallamin lil'abid. Wa ma yadhlimu rabbuka ahada. Des versets qui montrent qu'Allah ne commet pas d'injustice. Ensuite il dit wa qala al-Khalil alayhi salam. Donc al-Khalil ça veut dire la personne que tu aimes. Plus que par exemple Al-Habib c'est quelque chose que t'aimes bien, que quelqu'un que t'aimes bien. Al-Khalil c'est celui que t'aimes vraiment au plus. Et Ibrahim c'est le Khalil d'Allah, comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit, Allah il a cité dans le Coran, il a dit Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Protège-moi ainsi que mes enfants du fait que nous adorions les statues. C'est-à-dire écarte-moi de l'adoration des statues, moi et mes enfants. Ibrahim il a fait cette doua à Allah. Donc Cheikh Al-Fawzan dit Al-Khalil alladhi balagha a'la darajat al-mahabba wal murad bihi Ibrahim alayhi salam alladhi takhadahu Allah khalila. Donc il dit bien Al-Khalil c'est celui qui atteint le plus haut degré dans l'amour. Ensuite, il dit Al-Asnam, Jam'u Sanamin, wa huwa ma kana manhoutan ala surati al-Bashar, ou ala surati ayi hayawan. Donc, Al-Asnam, Al-Sanam, c'est le pluriel de Sanam. Sanam, c'est ce qu'on traduit habituellement par les idoles ou les statues. Il dit c'est ce qui est sculpté avec une forme d'être humain ou d'animal. C'est-à-dire qu'il y a une forme de monstre ou d'animal ou d'être humain. Ça, on appelle ça un Sanam. Et l'autre sorte, c'est le Wathan. Le Wathan, c'est ce qui s'adore en dehors d'Allah, mais sans forme d'être humain ou d'animal, comme par exemple les mausolées ou les tombes, que les gens y prennent, ou les pierres ou les arbres, que les gens y prennent comme idoles en dehors d'Allah. Donc elles n'ont pas une forme de quelque chose de vivant, donc on appelle ça Wathan. المعنى الإجمالي للآية الأولى أن الله سبحانه يخبر خبرا مؤكدا أنه لا يغفر لعبد لاقيه وهو مشرك به ليحذرنا من الشرك. Donc le premier verset, Allah dit dedans, il nous informe qu'il ne pardonne pas à quelqu'un qui le rencontre en étant mushrik, pour qu'il nous mette en garde, il nous mette en garde contre le shirk. وأنه يغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء أن يغفر له تفضلا وإحسانا ألا تقنط من رحمة الله. Et il pardonne ce qui est en dessous du shirk, parmi les péchés, à qui il veut pardonner par sa grâce, pour qu'on ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Donc d'un côté, dans le verset, Allah il nous met en garde contre le shirk, et en même temps il nous indique le fait de ne pas désespérer de sa miséricorde. المعنى الإجمالي للآية الثانية أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يدعو ربه عز وجل أن يجعله هو وبنيه في جانب جانب بعيد عن عبادة الأصنام وأن يباعد بينه وبينها لأن الفتنة بها عظيمة ولا يأمن الوقوع فيها. Donc il dit le deuxième verset, il nous informe que Ibrahim il faisait l'invocation à Allah pour lui et pour ses enfants d'être loin de l'adoration des statues, et qu'Allah les éloigne, lui et ses enfants, de l'adoration des statues, parce que leur tentation, la fitna causée par ces statues, elle est grande, comme il a dit après Ibrahim, innahunna adlanna kathiran minan nas, elles ont égaré, c'est-à-dire les statues, beaucoup de gens. Donc quand il a vu que beaucoup de gens étaient égarés par ces statues, il a eu peur pour lui-même et il a demandé à Allah de l'en écarter. مناسبة الآيتين للباب أن الآية الأولى تدل على أن الشرك أعظم الذنوب. Donc, quel est le pourquoi il a mis ces versets dans ce chapitre? Le premier verset nous montre que le shirk c'est le plus grand des péchés. لأن من مات عليه لا يغفر له, parce que celui qui meurt dessus n'est pas pardonné.
وهذا يوجب للعبد شدة الخوف من هذا الذنب الذي هذا شأنه.
Et ça implique que la personne elle ait peur. Elle a une grande peur de, vis-à-vis de ce péché dont la situation est que Allah ne le pardonne pas.
والآية الثانية تدل على أن إبراهيم خاف الشرك على نفسه ودعا الله أن يعافيه منه فما الظن بغيره فالآيتان تدلان على وجوب الخوف من الشرك.
Et dans le deuxième verset, il nous montre comment Ibrahim il a eu peur pour lui-même vis-à-vis du shirk. Donc si Ibrahim, Imam al-Hunafa, et dans la dua, qu'est-ce qu'on dit quand on se lève le matin? Asbahna ala. Dans la dua, on dit wa ala millati abina Ibrahim. On est sur la religion de notre père. Pourquoi? Parce que c'est les pères de tous les monothéistes. Parce que c'est lui leur imam. C'est lui qui les a devancés dans ça. Donc si lui, il a eu peur pour lui-même de tomber dans le shirk, alors qu'est-ce qu'il en est pour autre que lui, qui n'avait pas atteint son grade? Donc ça implique la peur du shirk. Et que la personne, elle ne se dit pas à chaque fois qu'elle est. Elle ne doit pas penser qu'elle est en sécurité vis-à-vis de la mécréance. Et pour l'anecdote, en Arabie Saoudite, il y avait un professeur de Tawhid qui était connu pour ça. Justement, c'était sa spécialité, Tawhid, à Médine. Et je crois qu'il a voyagé à l'étranger. Il a rencontré une femme. À la base, il était parti, je crois, pour la da'wah, ou je ne sais pas. Il a rencontré une femme étrangère. Une chrétienne, ou une américaine, ou je ne sais pas c'est quoi. Il est tombé amoureux d'elle. Et après, elle l'a détourné de sa religion. C'est-à-dire, elle lui a imposé de renier l'islam pour rester avec elle. Et il a renié l'islam. Prof de Tawhid. Pour montrer quelqu'un, il ne doit pas se dire, moi c'est bon, muslim, khalas. Il y a un sceau sur mon cœur,
et je vais mourir comme ça. Donc pour montrer si Ibrahim alayhi salam, il a demandé à Allah de le protéger du shirk, c'est pas à nous de nous dire on est des musulmans, c'est bon, on va rentrer au paradis. Et ça, il faut appeler à ça, parce qu'à la limite entre nous, ça on connaît, on l'a déjà lu 100 fois, mais il faut appeler les gens qui sont autour de nous à ça. Combien de gens maintenant, quand ils se considèrent parce que son père est Hajj et qu'il a un nom musulman et qu'il a été circoncis quand il est petit et qu'il ne mange pas de porc, ça y est, c'est un musulman. Il peut faire tout ce qu'il veut. Ça veut dire qu'il peut aller en boîte, il peut faire ce qu'il veut, il peut ne pas prier. Alors, à la limite, aller en boîte, ça ne fait pas sortir d'islam, mais c'est contraire à l'islam, c'est un péché. Ne pas prier, ça par contre, ça fait sortir de l'islam, etc., etc. Dire des paroles de mécréance. Moi, bien sûr, il y a une divergence. Moi, je dis ça parce que c'est mon avis. C'est... Oui, il y a une divergence à la Kulli Hal. Hein? Al-Muhim, toi, quelqu'un qui est musulman à la base, c'est pas que Cheikh Al-Albani. Cheikh Albani, c'est un savant de notre époque. Cheikh Ibn Baz, c'est un savant de notre époque. Avant Cheikh Albani, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, tu vois, c'est surtout, c'est des gens. Il n'y a pas que Cheikh Albani qui a dit que celui qui prie pas, c'est pas un mécréant. Il y a l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa. Il y a beaucoup d'imams avant qui ont dit ça. Moi, quand je dis ça, c'est parce que pour moi, c'est une certitude. Donc, c'est mon opinion, donc je le dis comme ça. C'est-à-dire une personne quand elle parle de ça, mais elle n'est pas obligée à chaque fois de dire par exemple on parle de mécréance et cite par exemple le fait de ne pas faire la prière, je suis obligé de dire mais il y a une divergence. Si c'est son opinion, je peux dire comme ça, tu vois. Etc. etc. Donc c'est à ça qu'il faut prêcher les gens autour de nous. Leur faire comprendre que la forme de l'islam, ça ne suffit pas. L'islam, c'est des actes, des croyances qu'il faut appliquer. Et qu'elle ne doit pas être sûre qu'elle ira au paradis et qu'elle mourra sur l'islam. Surtout si elle se moque de l'islam, dans le sens où elle n'apprend pas l'islam et elle ne cherche pas à le pratiquer. Ça, c'est des causes pour qu'Allah il l'égare. Et quand on lui parle de la sunna du prophète, il le rejette. N'est-ce pas qu'Allah il a dit dans le Coran « فَلِيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً » C'est-à-dire que ceux qui divergent de l'ordre du prophète craignent que ne les touche une fitna, une tentation. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Ahmed sur le verset? Il a dit, peut-être que quelqu'un, à chaque fois qu'on lui parle des ordres du prophète, il les rejette, et donc Allah, il crée une déviance dans son cœur, c'est-à-dire le kufr, parce qu'il a dit au début de son explication, « Al-fitna al-shirk ». La fitna, ça veut dire le polythéisme. C'est-à-dire qu'une personne, elle détourne, elle renvoie à chaque fois les actes du prophète, les ordres du prophète. Ça, c'est une cause pour qu'Allah fasse en lui la mécréance. Et il meurt sur la mécréance. Donc si nous, à la limite, on apprend, on connaît ces choses-là, si, et quand on va au cours, il y a beaucoup de choses qu'on répète et qu'on connaît déjà. Mais ça doit nous éveiller à ceux qui sont autour de nous. Tous les musulmans qui sont autour de nous, qui n'ont pas conscience de ces choses-là. Donc c'est à nous de leur apprendre. Chacun dans sa maison, avec sa famille, ses parents, etc. etc. Munasabatul ayatayn lilbab. أن الآية الأولى تدل على أن الشرك أعظم الذنوب سجد جالو ما يستفاد من الآيتين donc qu'est-ce qu'on profite des deux versets أن الشرك أعظم الذنوب لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لا يتوب منه donc on profite du verset. Ce verset, c'est la preuve comme quoi le shirk, c'est le plus grand des péchés, parce qu'Allah nous a informé qu'il ne pardonne pas à la personne qui s'est pas repenti du shirk. أنما عدا الشرك من الذنوب إذا لم يتب منه داخل تحت المشيئة إن شاء الله غفره بلا توبة وإن شاء عذب به ففي هذا دليل على خطورة الشرك. Donc c'est-à-dire que le shirk, Allah ne le pardonne pas pour celui qui n'en est pas repenti. Au-delà du shirk, parmi les grands péchés, Allah il pardonne à qui il veut. C'est-à-dire Allah il peut le pardonner sans tauba. C'est-à-dire sans que la personne ait fait tawbah, Allah il peut choisir de lui pardonner. On appelle ça insha'a ghafara lahu. S'il veut, il lui pardonne. Wa insha'a adhabahu. Et si Allah le veut, il le châtiera. Par justice pour son péché. Ça, c'est la croyance, c'est important. C'est un point important, ça, dans la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est croire que celui qui commet les grands péchés, tant qu'il est musulman, c'est-à-dire qu'il reste musulman, malgré qu'il fasse les grands péchés, ça ne fait pas sortir d'islam. Contrairement à ce que beaucoup de nos vieux ils disent, Adam, je suis musulman, mais ishrab, ou là, des trucs comme ça. Ou là, ikul halouf, je suis musulman. Donc, ouais, comme beaucoup de gens, ils disent, par exemple, ils disent, il y a beaucoup de gens parmi les awam qui n'étudient pas la religion, parce qu'eux, ils pratiquent un minimum de la religion, ils se permettent facilement de juger les autres comme étant des mécréants. Ça, c'est courant, ça, chez les musulmans. C'est-à-dire, ils disent, par exemple, Adam, ishrab, ou là, par exemple, il mange du porc, ouais, c'est pas un musulman. Donc ça contredit la croyance de Ahl Sunnah. Les gens qui suivent les Sahaba et du prophète sallam, ils croient qu'une personne, tant qu'elle est musulmane, si elle est musulmane, le fait qu'elle commette des grands péchés, même si ça va jusqu'au fait de manger du porc, je dis manger du porc parce que les musulmans ils ont bien sorti que manger le porc c'est haram. Si on dit à un vieux celui-là il mange du porc, pour lui c'est clair, c'est un kafir. Même si ça atteint le fait de manger du porc, la personne elle reste musulmane. Donc tu peux pas juger quelqu'un sur son islam par rapport à ça, qui est le fait qu'il boive, le fait qu'il mange du porc, etc., etc., qui désobéisse à ses parents. Tout ça, c'est des grands péchés pour lesquels il peut être châtié, mais comme il peut être châtié, Allah, il peut aussi lui pardonner. Et ça reste un musulman. Et donc, on divergeait dans ça de Ahl Sunnah, deux groupes dangereux qui sont Al-Khawarij, ou alors on peut les nommer Al-Haruriyin, c'est-à-dire ceux qui sont apparus à l'époque de Ali, qui ont combattu Ali, dont le prophète avait prévenu. Il avait mis en garde sa communauté en disant « Viendra des gens qui lisent le Coran, mais ils ne dépassent pas leur gorge. Ils sortent de l'islam comme la flèche elle sort de l'arc. » Et pourtant, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Vous aurez honte de vos adorations à côté de leurs adorations. » Et pourtant, il parlait aux sahabas. Ça veut dire ces gens, quand tu les regardes, ils ont une adoration. C'est-à-dire ils sont très adorateurs, plus que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, comment il les a jugés, le prophète ? Ils sortent de l'islam comme la flèche, elle sort de là. Et à la fin, il a dit pire, il a dit, si je les rencontrais, je les massacrerais comme il a été fait pour Ad et Thamoud. C'est-à-dire, je les tuerais, etc., etc. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les pires, celui qui est tué par eux, c'est le meilleur tué. C'est-à-dire, tu ne peux pas te faire tuer mieux que par ces gens-là. Et le prophète, il a promis une récompense à ceux qui sont tués par ces gens. Et il a dit, ils sont les pires tués, les pires cadavres sur la terre, etc. Ça, c'est le Khawarij, qui sont apparus à l'époque de Ali, et qui ont combattu Ali. Et le prophète, il avait promis à Ali, comme quoi il allait les combattre. Parce que des fois, le prophète, il décrit des gens, mais il leur donne pas un nom, il leur donne pas une époque. Donc des fois, les sahabas, ils avaient affaire à des gens, et ils pensaient que c'était les gens dont il parlait le prophète. Et le prophète, il avait dit à Ali qu'il allait les tuer. Et il lui avait décrit une personne, comme quoi elle faisait partie de ce groupe. Et quand Ali il les a tués, ils étaient à peu près 3000. Et ils restaient tout le temps dans un endroit qui s'appelait Harour. C'est pour ça qu'on les appelait Haruriyin. Le Khawarij, on les appelait comme ça au début. Comment ? En gros, c'est ça, ouais. C'est leurs héritiers. Ceux qui posaient bombes maintenant, c'est leurs héritiers, mais pas de tous les points de vue. C'est-à-dire que ceux qui posent des bombes maintenant, certains d'entre eux, si tu leur dis qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui fait la fornication, il ne va pas te dire c'est un mécréant. Donc tu comprends, c'est-à-dire les gens comme ça, on peut leur dire khawarij dans le sens où c'est des révoltés, etc. Ils sortent contre la communauté musulmane et ils tuent des musulmans, mais ils ne sont pas khawarij à 100% comme ceux du début. Parce que les khawarij du début, ils avaient une aqida de A à Z. Par exemple aussi le fait que la femme, elle devait rattraper ses prières qu'elle manquait à cause des règles. Et je pense pas que les khawarij actuels, si tu leur demandes ça, ils connaissent un minimum de la sunna. Ils te diront pas ça. Donc c'est des khawarij, mais pas des khawarij 100% comme ceux du début. Mais on peut les appeler khawarij. À tel point, certains ulama ils disent « Man kharaja ala al-hakim fa huwa khariji ». Celui qui appelle à sortir contre le gouvernement musulman, c'est un khariji. Même si dans sa croyance il est bon, ils appellent ça un khariji. C'est-à-dire « yulhaqu bihim ». Il rentre dans le groupe des Khawarij juste à cause de sa révolte contre les gouvernements musulmans. Donc en gros, c'est les ancêtres des gens de maintenant. Là.
Ceux qui critiquent les gouverneurs, mais sans pour entendre dire qu'il faut se révolter contre eux.
Ça, c'est la même chose.
C'est la même chose. Hein.
Parce que qu'est-ce qu'il veut par là ? C'est la même chose. Ça, c'est ce qu'il faisait Abdullah ibn Saba al-Yamani. Abdullah ibn Saba, c'était un juif du Yémen. qui avait fait semblant de se convertir à l'islam. Et c'est lui qui a inventé, entre guillemets, qui a fondé les Khawarij et les chiites en même temps. La'anatullah alayh, c'est tout le moins qu'on puisse dire. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait à l'époque de Uthman? Il allait dans les provinces musulmanes et il était connu comme un abid, quelqu'un qui est dans l'adoration d'Allah. Et il chauffait les gens contre le gouverneur, contre Uthman, le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait Uthman il boit, Uthman ci, Uthman ça. À tel point que ça a révolté un groupe contre Uthman, ceux qui ont assassiné Uthman. Et la même chose après contre Ali. Donc le fait de parler contre les gouverneurs, ça c'est planter la graine aux actes en vérité. Donc un gouverneur, tant qu'il est musulman, on lui doit obéissance et on ne doit pas parler contre lui. Parce que parler contre lui, c'est éveiller la révolte en vérité. C'est planter les... Et toujours les révoltes, ça ne commence pas par quelqu'un qui sort, ça commence par des idées. Même tu regardes toutes les révolutions, ça commençait par des théories, des idées, après ils les ont mis en pratique. De toute façon, regarde, ça, c'est, il faut savoir qu'il y a des ulama qui disent, il y en a, ça existe, il ne faut pas croire que ça c'est une parole des gens de l'innovation, que celui qui juge avec autre que la loi d'Allah, c'est un kafir. C'est-à-dire, même s'il croit au fond de lui, qu'est-ce qu'il fait, c'est haram. Et que si tu lui demandais, il dit non, la loi d'Allah c'est mieux. Il c'est quand même un kafir. Pour certains ulama qui ont suivi en cela, Mohamed Ibrahim al-Sheikh, le mufti d'avant Ibn Baz. Mais en vérité, cette opinion, elle est rejetée. Parce qu'elle est contraire à l'opinion que tu pourrais lire dans les livres de tafsir et les livres de Aqida, des ulama, de beaucoup de ulama de tous les siècles. C'est pour ça que Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani et Cheikh Al-Uthaymeen, ils avaient cette opinion que si la personne, elle croit au fond d'elle que ce qu'elle fait c'est haram, en jugeant avec la, par exemple la constitution française ou anglaise, si tu lui demandes est-ce que c'est haram, il te dit oui. Si tu lui demandes est-ce que le Coran c'est mieux, il te dit oui. Donc c'est pas un kafir, c'est un musulman. Or, les gouvernements actuels, est-ce que tu as été leur demander? Est-ce qu'une personne de science, elle a été les voir en leur disant, voilà, oh est-ce que tu penses que c'est halal, haram, etc. Donc à la limite, le fait qu'ils disent qu'ils ne jugent pas avec la loi d'Allah, donc c'est des mécréants, à la limite, on pourrait dire ils ont des preuves dans ça. Même si c'est pas le meilleur avis. Le meilleur avis, c'est celui de... qu'ils ont mis en avant Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, etc. Mais à la limite, on pourrait dire que c'est un avis. Mais maintenant, le fait que ce soit ça ton avis, est-ce que ça implique directement le khuruj? Non. Et ça, Cheikh Al-Uthaymeen, il l'a expliqué. Je ne sais plus dans quel livre tu trouves ça, où ils ont demandé à Cheikh Al-Uthaymeen à propos de celui qui est juge avec autre que les lois d'Allah. Fatawa al-Islam, où il a dit, ouais, de toute façon, les étudiants, ils ne doivent pas parler de ça, tout ça. Donc vous regarderez dans Fatawa Arkan al-Islam, les fatwas sur les piliers de l'islam de Cheikh Al-Uthaymeen, quand il lui posait cette question sur le gouverneur qui juge avec autre que les lois d'Allah. Et il a expliqué, il a détaillé les différentes situations du gouverneur. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit, Cheikh? Il a dit, de toute façon, à quoi ça sert que les étudiants, ils se battent entre eux pour ce genre de questions? Parce que même si le gouverneur t'arrivera à dire que c'est un mécréant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu comprends? C'est ça surtout en fait, le problème. Même si, vas-y, admettons, Foulen, c'est un mécréant. Bien, et alors, qu'est-ce que ça change? Zahma, tu vas faire un petit groupe et tu vas y aller. Et demain, qui c'est qui va venir? De l'autre côté de l'Atlantique, ils vont débarquer, ils vont te mettre de bombe et tu vas finir en prison. Et après, tous ceux qui pratiquent l'islam, ils seront hagar à cause de toi. Comme ça s'est passé où? En Égypte. Va porter la barre maintenant en Égypte. Était égyptien. C'est très difficile. Pourquoi? Parce que on devançait les ikhwan muslimin qui parlaient que de politique, 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 au lieu de changer la aqida des gens, parce qu'eux-mêmes, de toute façon, eux-mêmes, ils n'avaient pas d'aqida, c'était des Ash'ari ou des Maturidi. En Égypte, c'est rempli de shirk, c'est rempli d'adoration des tombes, c'est rempli de n'importe quoi. Au lieu de corriger ça chez les gens, et Allah, qu'est-ce qu'il dit? Inna Allah. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'ils ont en eux-mêmes. Donc c'est-à-dire commence par le peuple. Si le peuple il est bon, Allah il leur donnera quelqu'un qui est bon. Ça sert à rien d'aller changer le gouverneur Et, subhanallah, les gens là, dans les pays qui veulent changer de gouverneur pour mettre un état islamique, dans les pays concernés, fais un sondage chez la population et dis-leur, est-ce que tu aimerais qu'on coupe la tête à celui qui a tué quelqu'un? Est-ce que tu aimerais qu'on lapide la femme adultère? Est-ce que tu aimerais qu'il y ait la polygamie? Billah alek. Combien ils vont dire, ouais, j'aimerais? 2%, 1%, tout le reste, ils ont beau prier, etc. Ils vont dire, non, moi, c'est vrai, je préfère la démocratie, etc. Le peuple lui-même, il veut pas. Donc, prêche les gens déjà à l'islam, à revenir à la sunna. Mais les ikhwan muslimin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaqué direct le gouverneur, révolte, commandita d'assassinat, comme ils ont fait sur Sadat, attentat, etc., etc. Aussi ceux qui ont suivi Seyd Koutoum, attentat, etc. Résultat, comme ils n'avaient pas la force, parce qu'il ne faut pas se mentir, les musulmans, ils n'ont pas la force d'imploser un État islamique maintenant. Les Égyptiens, de toute façon, ils ont balayé. Et résultat, maintenant, le fait d'être accroché à la religion, c'est mal vu. Dès que tu es accroché à la religion, c'est-à-dire, tout le monde a pris à cause d'eux, c'est ça que je veux dire en fait. Ça s'est passé aussi en Syrie. Ça s'est passé aussi en Algérie. Même si maintenant, alhamdoulilah, grâce à la vraie da'wah salafia, qui est le fait d'enseigner le tawhid et la sunna aux gens, ça s'est amélioré. Donc c'est ça en fait, à cause de ces gens-là, qui créent la fitna, qui parlent tout le temps sur les gouverneurs, qui font du terrorisme, qui appellent à la révolte, alors qu'ils n'en ont pas les moyens, c'est ça surtout, alors qu'ils n'en ont pas les moyens, et ben après tout, c'est tout l'islam qui prend. Parce qu'ils n'ont pas suivi à la base le minhaj dans la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était dirigé vers le peuple, vers la correction de la aqidah et de la sunnah dans les gens, avant de penser au hukm. C'est-à-dire que si la personne peut être assistée par le hukm, comme il l'a fait Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, tant mieux. Quand Mohammed ibn Abdul Wahhab prêchait le tawhid, personne ne voulait lui répondre. Et il est parti voir Mohammed ibn Saoud, qui était un prince, qui avait un chef d'état. Il lui a dit, moi je suis avec toi dans ta da'wah. La da'wah, elle était plus forte. Donc quand il y a ça et ça, la da'wah, elle va mieux. Mais si la force, c'est-à-dire le hukm, il n'y est pas, et c'est impossible, eh ben, tu dois toujours te concentrer dans le peuple, le fait de répandre la da'wah salafia, la da'wah de la sunnah. Comme il l'a fait Ibn Taymiyyah, par exemple. Ibn Taymiyyah, il n'a pas cherché à se révolter contre les gouverneurs. Mais comment il a fait la guerre au jour de l'innovation? Et il a prêché l'islam dans les gens. Donc parler déjà des gouverneurs, ça c'est une faute et c'est un péché en vérité, parce que c'est appelé à la fitna qui ramène plus de mal que de bien. Mais malheureusement, enfin malheureusement entre guillemets, il n'y a personne qui connaît ça s'il ne connaît pas la da'wah salafiyat en tant que telle. La da'wah de Cheikh Al-Albani, de Cheikh Ibn Baz, en général, si une personne elle connaît pas cette da'wah là, elle n'a pas ce genre de conception, elle va se tromper. C'est-à-dire, si tu regardes les awam des musulmans, les musulmans du commun, nomme-lui n'importe lequel des gouverneurs. Wahadak, wahadak, wahadak. Mais est-ce que lui, déjà, il a jugé dans sa maison avec la loi d'Allah? Quand tu lui dis, Ami, elle est où la barbe? 70 ans, ça y est maintenant. Matachemch. Ouais, nta et tout, avec ta vieille barbe, c'est pas la peine. Yo le hukm d'Allah. Quand sa fille, elle passe en jean devant lui pour sortir le matin. Yo le hukm d'Allah. Si elle lui ramène le hijab, il va lui mettre des claques. Il y a où le hukm d'Allah? Donc pourquoi se concentrer sur les gouverneurs? Et la majorité des musulmans, ils n'ont pas appliqué le hukm d'Allah déjà en eux. Comme au Maroc, c'est pareil. Ceux qui appellent tout le temps au hukm d'Allah, regarde leur visage. Regarde à quoi ils ressemblent. À l'adwa l'ihsan, etc. Tout le temps, le hukm, le hukm, le hukm. Et allez où vous, votre pratique? Il n'y a pas de sunnah, il n'y a pas d'aqida, il n'y a rien du tout. À tel point que vous vantez le Khomeini, vous vantez Ibn al-Arabi, Seyd Qutb, c'est quoi ce délire? Il est où l'islam? C'est quoi l'islam que vous nous allez nous mettre si vous prenez le gouvernement? On se demande, ça va être quoi? On se demande si c'est pas mieux tel que c'est maintenant. Laissez-nous tranquille. Parce qu'on se demande c'est quoi que vous allez mettre au gouvernement comme islam. Parce que quand on vous regarde vous, on a peur de quel islam vous allez nous mettre. C'est-à-dire c'est un islam global. La prière, tout le monde est musulman, les chiites sont nos frères, etc., etc. Donc, les gens, il faut déjà qu'ils jugent en eux-mêmes la loi d'Allah, avec la loi d'Allah, avant de parler des gouverneurs. Donc, je disais donc que les Khawarij, eux, ils disent, leur madhab, c'est quoi? C'est que celui qui commet un grand péché, c'est un kafir. Donc, c'est-à-dire que celui qui commet de la fornication, ou le vol, ou l'alcool, ou qui boit l'alcool, ou qui désobéit à ses parents, ou qui ment, etc., etc., eh ben il sort de l'islam. Et tu dois l'appeler mécréant chez eux. Et donc, une petite parenthèse, c'est ce qui fait que certains les ulama du hadith ne rejettent pas absolument le fait de rapporter les hadiths selon les gens de l'innovation. Pourquoi ? Parce que parmi les gens de l'innovation, qui connaissaient des hadiths comme les autres, comme les gens de la sunna, il y avait des khawarij. Et un khariji, un vrai khariji de l'époque, parce que maintenant, ils ont le mal des khawarij d'avant, et à côté, ils mentent et ils arnaquent, etc., etc. À la limite, les premiers khawarij, au moins, ils adoraient Allah à fond. Maintenant, ni ils ont ça, ni ils ont ça. Donc, parce que les premiers khawarij, c'était des gens, comme le prophète il a dit, ils adoraient Allah à fond. Donc, ils ne pouvaient pas se permettre de mentir sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Parce que s'il ment, lui-même, il se considère mécréant. Donc, les ulama du hadith, ils prenaient des khawarij le hadith. Parce qu'ils savaient que c'était des gens qui ne mentaient pas. Parce que pour eux, le mensonge, c'est de la mécréance. Donc, le hadith, il était accepté. Ça, c'était une petite parenthèse.
Ils
ne
savaient pas ce qu'ils disaient sur le prophète, ce qu'ils disaient sur eux.
Si. Mais le fait de prendre le hadith, ça c'est autre chose. Ça veut dire qu'il pouvait le détester parce que c'est un khariji, etc. Mais ce hadith, il le prend.
Parce que pour ça, il parlait en mal d'eux. Eux, ils ne savaient pas que le professeur ne parlait en mal d'eux.
Les khawarij.
Ouais,
c'est-à-dire, est-ce qu'ils acceptent déjà les hadiths, hein? Est-ce qu'ils acceptent les hadiths? Est-ce qu'ils ne les détournent pas de leur source, etc., etc. C'est ça. Ouais, voilà, on va dire c'est pas nous, on va dire non, c'est les salafis, c'est les madakhila. Après le deuxième groupe, c'est le mu'tazila. Le mu'tazila, donc c'est ce qu'on appelle le mutakallimin, ceux qui avaient comme base taqdimun naql, al-aql ala an-naql, le fait de devancer la raison vis-à-vis la révélation. Eux, ils ont dit, ils ont ramené un autre madhab, ils ont dit celui qui commet les grands péchés, il est dans un endroit, dans une place entre deux places. Il est ni kafir ni muslim. C'était une nouvelle bid'a qu'ils ont ramenée quelques siècles après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais par contre, ils disent ça c'est fi dunya, mais fi l'akhira, il est éternel en enfer. Mashallah la rahma. Et ça c'est contraire au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit, ou plutôt c'est une mauvaise compréhension du hadith du prophète sallam quand il dit la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, c'est-à-dire la personne quand elle commet la fornication, elle n'est pas croyante au moment où elle fait la fornication. Wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, pareil pour le vol, pareil pour l'alcool. Mais ce hadith, qu'est-ce qu'il veut dire? On avait vu dans les cours sur l'iman, qu'est-ce que ça veut dire croyant dans les hadiths? Ça veut dire la foi complète. Et Ibn Abbas, il a expliqué ça comme quoi la foi de la personne, elle sort et elle reste suspendue, c'est-à-dire la foi complète. Il lui reste la foi valide, on va dire, la foi minimale par laquelle elle reste musulmane. Mais si elle était une personne pieuse qui a la foi complète, cette foi complète, elle s'annule quand il commet la fornication. Et il reste musulman, il reste et il a toujours de la foi qui lui permet d'être musulman. Ça, c'est la croyance d'Ahl Sunnah wa Jama'a. Ensuite, il dit Al-Khawfu min ash-shirk. Donc ça, c'est ce que j'avais déjà dit, le fait d'avoir peur du shirk, parce que Ibrahim alayhi salam, qui était celui qui a précédé les gens dans le monothéisme, il avait peur pour lui-même du polythéisme. Et c'est pas que du polythéisme, c'est aussi des péchés et des innovations. Donc c'est-à-dire qu'une fois que tu connais la sunna, c'est pas ça y est, je suis salafi, j'ai un tampon et je peux plus être mubtadi'. Ça c'est la même chose. Si on a peur du polythéisme, on a peur aussi de l'innovation. Donc il ne faut jamais se croire à l'issue, à l'abri des innovations. Et c'est pour ça qu'il faut toujours demander l'aide d'Allah et faire les causes qui sont le fait d'apprendre la religion. Aussi il dit « Al-raddu ala al-juhal al-ladhina yaqulun la yaqa'u shirku fi hadhi al-ummati » Dans ce hadith, dans ce verset, il y a une réplique à ceux qui disent parmi les ignorants que le polythéisme n'existe pas dans cette communauté. Donc ils se sont crus en sécurité vis-à-vis du polythéisme et ils sont tombés dedans. Et ça, c'est aussi le fait, la cause, que c'est la aqida qui est la plus répandue dans les gens de maintenant, dans les musulmans de maintenant, c'est la aqida des mutakallimin, c'est-à-dire l'asha'ira, surtout l'asha'ira. Or, l'asha'ira, le tawhid chez eux, c'est quoi? Si tu prends un livre tawhid de l'asha'ira, c'est juste le fait de croire que Allah est unique. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme. Il est capable, il est savant. Il entend, il voit. Il a la vie. C'est-à-dire, il donne à Allah cet attribut. Al-ilm, il est savant. Al-qudra, il est capable. Al-kalam, il parle. Al-sam, il entend. Al-basar, il voit. Al-hayat, il vit. Et le septième, quelqu'un qui a étudié au bled, qui a fait la aqida ash'ariya, il va me dire. Hein? Chaque fois je... Au bled par exemple, ouais, c'est la aqida ash'ariya. La aqida d'état, c'est la aqida ash'ariya. Ouais. Et en fait, eux, ils parlent que de ce tawhid là. Bah si après Alhamdulillah, peut-être c'est vrai.
Non mais c'est pas ce...
Ouais, il y a appris la version ash'ariya. Ah. Et en fait, quand vous regardez, le tawhid tel qu'ils le définissent, c'est que le tawhid qui concerne tawhid al-rububiyya, que la majorité des gens ils connaissent, c'est-à-dire, et que même les koufars de Quraysh qui ont combattu le prophète, ils ne reniaient pas le fait de dire qu'Allah c'est lui le créateur, etc., etc. Mais ils n'insistent pas sur la vraie partie du tawhid, ou plutôt la principale partie du tawhid, qui est tawhid al-uluhiyya. Donc ça fait leur négligence, la négligence des ulama du madhab ash'ari, qui est un madhab dans la aqidah, c'est pas comme madhab maliki, etc. C'est un madhab bid'i, un madhab innovateur. La négligence qu'ils ont pour tawhid al-uluhiyya et tawhid al-ibada ou tawhid al-amal, eh ben ça a entraîné que c'est répandu le shirk dans les pays musulmans. Parce qu'eux, ils insistent que sur le fait de dire Allah c'est lui le créateur. Et ils prouvent avec plein d'arguments que le monde il a un créateur. Pour eux, le tawhid il se résume à ça. Alors que le tawhid c'est plus que ça, comme on l'a vu. Et c'est surtout tawhid al-ibada, le fait de vouer les adorations à Allah seul. Bon, on va s'arrêter là, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.